La suite de votre grand journal du soir avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est l'heure de prendre du recul, d'analyser l'actualité du jour avec nos grandes voix. Le débat des grandes voix, c'est jusqu'à 19h avec nos spécialistes en direct et à distance. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Emmanuel Duteil, en charge de l'économie à Europe 1. Michael Darmon, éditorialiste politique. Et depuis Barcelone, ce soir, Henri Laguérie, notre correspondant en Espagne.
Bonsoir aux grandes voix.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Ce petit rendez-vous, merci d'être là, fidèle au poste. Bonsoir Henri de Laguérie, bienvenue particulier à vous qui nous rejoignez ponctuellement. Et c'est par vous que je vais commencer évidemment ce soir, parce que on a peut-être un petit sursis, une petite lueur d'espoir qui nous vient de chez vous. L'incendie commence à être maîtrisé, c'est pas moi qui le dis, c'est Pedro Sanchez.
Oui, effectivement, c'est la phrase qu'il a prononcée ce matin. Il était au Congrès devant les députés. C'est vrai que ici, on l'a dit souvent, hein, c'est pas un pic finalement.
C'est le chef du gouvernement. Pardonnez-moi, je précise. Je pensais que vous alliez faire. C'est le chef du gouvernement, ce qui est pas évident nécessairement pour tout le monde.
Excusez-moi, oui, le chef du gouvernement socialiste espagnol qui s'exprimait ce matin devant quelques députés au Parlement espagnol. Et c'est vrai que cette semaine, on est sur ce fameux plateau, parce que cette courbe, il n'y a pas un pic qui après redescend. On a eu des chiffres assez positifs en début de semaine. C'est reparti à la hausse le nombre de décès quotidiens. Et puis aujourd'hui, ce chiffre de décès quotidiens est un petit peu en baisse. 683 en 24 heures, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est un chiffre en baisse. On a dépassé les 15 000 décès en Espagne. Mais on a l'impression, et je le dis avec énormément de prudence, ouais, on a l'impression que la situation se stabilise, que le pire est peut-être repassé.
Peut-être. Alors, on est effectivement très prudent. Je reviens vous voir dans quelques minutes. L'autre information du jour, disons que l'information du jour, en France, c'est du côté de Marseille que ça s'est passé tout à l'heure. On n'a pas d'image, on n'a pas de son, Michael Darmon, mais on vous a pour nous raconter peut-être les dessous de cette rencontre Macron-Raoult. Raoult, c'est évidemment le professeur Didier Raoult et sa chloroquine, hydroxychloroquine, dont on parle tant et qui fait tellement de débats.
Oui, d'abord, il y a quelques images à l'instant même qui viennent d'être fournies par l'Élysée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui montre dans l'enceinte de l'hôpital une série d'applaudissements avec le président de la République qui applaudit tous les personnels soignants. Tout le monde applaudit mutuellement, je vais dire. Et sur plusieurs étages, une petite vidéo un peu comme ça qui donne le ton également de la journée. Cette journée était consacrée pour Emmanuel Macron à aller rencontrer les chercheurs sur les traitements pour deux raisons particulières. D'abord parce qu'il prépare effectivement l'allocution de lundi soir, et surtout parce que également, mais ça vous pourrez aussi en parler, il a eu hier un entretien avec le président de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et il est établi qu'il n'y aura pas de vaccin disponible pour le grand public avant un an et demi, deux ans.
Oui.
Donc on se refocalise sur les traitements, et comme le traitement qui pose le plus de questions en France est celui de promu, on le sait, par Didier Raoult, eh bien, ça a été l'occasion donc de faire cette visite surprise qui est en même temps un geste vers l'opinion, bien évidemment, parce qu'on connaît les polémiques que cela suscite et cela soulève depuis longtemps. Vous l'avez encore évoqué il y a quelques instants. Et c'est également la rencontre de chacun dans leur genre, de deux êtres atypiques, de deux êtres qui veulent être
qui
en permanence en rupture.
Qui se parlaient depuis longtemps. Juste un mot, parce que je voudrais interroger Ève Roger sur le sujet.
Bien
oui,
sûr.
C'est ça, ils se parlent, hein, ils se parlent de toute façon.
Régulièrement, voilà. Ils se connaissent, ils s'apprécient, mais bien évidemment, c'était autre chose que d'aller le rencontrer.
Voilà. Ève Roger, alors sur ce sujet, et puis sur les tests, les essais cliniques aussi, est-ce qu'on a les premiers résultats? Commençons par Didier Raoult et évidemment ce rapprochement, en tout cas là, très ponctuel, mais quand même.
Oui, alors moi, c'est une image qui me vient, c'est plutôt le druide et le président. Là, j'imagine Emmanuel Macron, fils de médecin, face à cet homme au physique étrange, mais c'est vraiment qu'une anecdotique. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'hydroxychloroquine, elle est testée aussi à l'hôpital où il est allé ce matin, avec le test Discovery. Il teste l'hydroxychloroquine, justement, à la demande, sans doute, du président de la République. Donc, il n'était pas forcé de prendre un avion pour aller jusqu'à Marseille pour parler de ce traitement-là. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, là, il y a une deuxième chose que je trouve assez choquante, vous savez que Didier Raoult, il promet aux Marseillais, ils font la queue devant pour faire des dépistages. Oui. Alors que la doctrine aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas assez de tests, et que les tests sont destinés aux soignants, aux personnes fragiles, aux femmes enceintes, etc. Donc ça veut dire qu'il légitime d'une certaine façon la transgression, le non-respect des règles. Il y a quelque chose que je trouve assez choquant. Alors, par ailleurs, dans les essais, j'ai regardé hier une vidéo absolument passionnante de la professeure Florence Ader qui mène les essais Discovery, et elle dit bien, nous, il y a 3200 patients en Europe, il y en a aujourd'hui 500 patients français qui ont été inclus depuis le 22 mars, et on ne pourra pas même physiquement, intellectuellement, donner des résultats avant la fin du mois d'avril. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron, il fait une tournée et en même temps, il ne peut pas dire lundi quelque chose sur quelles sont les pistes. Il pourra dire les pistes, mais il ne pourra jamais donner de résultat. Et évidemment, vous l'avez dit sur le vaccin, c'est effectivement, même s'il y a... Là, pour le coup, ça me fait penser à une fable de La Fontaine. C'est le lièvre et la tortue. Il y a des lièvres qui disent, on a déjà commencé à tester sur les hommes et peut-être à l'automne 2020, on l'aura. Mais on sait très bien que si on travaille sérieusement... Ça ne sera pas avant 12 à 18 mois, ça c'est sûr.
Restez avec nous sur Europe 1, votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix. Se poursuit jusqu'à 19h, vous écoutez Nathalie Lévy.
Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Artisans, commerçants, professionnels libéraux, ce message vous concerne.
Je suis chef d'une entreprise de proximité et avec la crise du coronavirus, je suis vraiment inquiet pour mon activité.
Vous rencontrez tous des difficultés. Des aides existent pour protéger votre entreprise. Utilisez sans attendre toutes les mesures négociées, comme le report des impôts et des charges sociales, le chômage partiel, le soutien à la trésorerie ou l'aide de solidarité. Retrouvez l'ensemble des aides sur le site udp-france.fr. UDP, indépendant et solidaire.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, il est 18h40, c'est la suite du débat des grandes voix ce soir avec vous Thierry Dagiral et autour de vous les spécialistes d'Europe 1 à distance, Eve Roger, chef du service société, Emmanuel Duteil, chef du service économie, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et ce soir avec nous depuis Barcelone, Henri de la Guérie, notre correspondant en Espagne.
Et Anissa, Nathalie a un problème technique, mais elle est là en ligne avec vous.
Oui, alors c'est un peu improbable, mais c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. On était évidemment... Alors, j'ai pas entendu tout ce que vous m'avez dit, Eve Roger, sur la visite du professeur, pardonnez-moi, du président Macron à Didier Raoult, mais on va y revenir de toute façon dans un instant, parce que ça monte en puissance les interrogations et évidemment le questionnement de cet affichage aujourd'hui à la veille donc de la prise de parole du président lundi. Emmanuel Duteil, il y a une autre information économique qui est très importante et que je voudrais vous faire commenter ce soir, ce sont ces 100 milliards pour soutenir les entreprises. Bruno Le Maire précisera tout cela demain matin puisqu'il sera l'invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk entre autres. 100 milliards en tout cas, c'est l'annonce du jour.
Effectivement, le ministre de l'économie et son collègue de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, ont donné une grosse interview ce soir aux Échos dans lequel ils dévoilent le nouveau plan pour soutenir les entreprises. Pourquoi nouveau plan? Parce que jusque-là, ils avaient parié sur 45 milliards pour soutenir les salariés et les entreprises. On passe à 100 milliards. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles mesures. Par exemple, le fonds de solidarité qui aide les petites entreprises, eh bien, il est dopé parce que ça cartonne. Mais malheureusement, ça cartonne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Il y a également un petit peu plus d'argent pour l'hôpital public. Alors on attend de savoir véritablement comment ça va se concrétiser, mais il y a un peu plus d'argent. Et puis, ben, il y a tout simplement des mesures qui coûtent beaucoup plus cher que ce qui avait été imaginé jusque-là, puisque le chômage partiel, jusque-là, on parlait d'un petit peu moins de 9 milliards d'euros de dépenses. Et ben, ça y est, on est à 20 milliards. On a 7 millions de personnes en ce moment au chômage partiel. Il faut voir qu'on a quasiment un salarié sur trois au chômage partiel, c'est dire le coût sur l'économie française. Et c'est détaillé aussi puisque pour la première fois, on a une prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2020. C'est un cataclysme. 6% de recul du PIB. C'est quoi le PIB? C'est toutes les richesses que nous produisons en un an. 6%, est-ce que c'est beaucoup? C'est énorme. C'est du jamais vu en temps de paix. Je vais vous donner une petite comparaison. C'est deux fois plus que le cataclysme de la crise de 2008. Donc vous imaginez ce que ça va donner. Bien évidemment, ça va faire exploser les déficits, ça va faire exploser la dette. Bruno Le Maire, dans cette interview, dit qu'il va falloir que chacun des Français participe un petit peu. Mais Gérald Darmanin prévient, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Quid maintenant de savoir comment on va payer quand même.
Voilà, on lui posera la question demain matin à 8h15. De toute façon, alors est-ce qu'on aura une réponse? En tout cas, la question lui sera posée. Retour en Espagne avec vous, Henri de Laguerie. Je me sens très très loin de vous, mais je suis là avec un énorme point d'interrogation en gras évidemment sur l'été, même sans vacanciers étrangers en Espagne. Ça fait clairement des frissons, hein, cette idée-là.
Oui, effectivement. Alors c'est pour le moment, c'est très difficile de dire ce qui va se passer cet été. Et c'est vrai qu'en général, dans cette crise, il est bien difficile de faire des prévisions. Mais il y a cette une du journal ABC aujourd'hui, avec, histoire de vous faire voyager un tout petit peu, cette très belle plage de Palma de Mallorca et cette cathédrale au fond. Mais ce titre terrible, le gouvernement se prépare à fermer les frontières au tourisme étranger cet été. Pour le moment, je le répète, ce n'est pas fait. Mais c'est vrai que j'ai contacté aujourd'hui le ministère du tourisme espagnol et qui dit tout dépend finalement de ce que diront les autorités sanitaires. Et c'est vrai qu'ici, clairement, on a le sentiment que ce sera de toute façon, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions prises, un été pour le tourisme extrêmement compliqué. Et le tourisme en Espagne, quelques chiffres, l'été, ce sont 20 millions d'étrangers entre juillet et août qui viennent en Espagne. C'est 13% des emplois en Espagne. Donc évidemment, ce sera extrêmement compliqué. Le secteur dit déjà que la saison, quoi qu'il arrive, sera presque perdue parce qu'il y aura sans doute de très fortes contraintes, notamment dans le secteur du transport aérien. On chiffre ça à peu près à 1 milliard d'euros pour le secteur, les pertes pour le tourisme en Espagne.
Et la saison, elle n'a pas franchement commencé, mais en ce moment, c'est aussi une période pour l'Espagne symbolique, au-delà même du symbole, oui. La semaine sainte, et on commence déjà à avoir une tendance en fait, de ce que ça pourrait donner cet été.
Effectivement, alors là de toute façon pour cette semaine sainte, tout le monde est évidemment chez soi. De toute façon, les 13 000 hôtels que compte l'Espagne sont fermés, obligatoirement fermés, c'est un ordre du gouvernement espagnol et c'est terrible, c'est un symbole. Les rares hôtels qui sont ouverts, ce sont ceux qui accueillent les malades, ceux qui ont passé le pire, j'allais dire, et qui finalement c'est un espèce de sas de décompression avant le retour à la maison. Il y a cette semaine sainte absolument étrange pour l'Espagne, c'est vraiment le moment habituel des vacances avec ces processions, avec ces cérémonies de Pâques, les chocolats qu'on s'offre, tout un tas de gâteaux selon les régions, ils sont un petit peu différents. Et donc voilà, c'est étrange. Et finalement, ça préfigure peut-être l'été qu'on va vivre en Espagne.
Ouais. Alors, on y reviendra avec vous, évidemment, Henri de Laguerie. Michaël Darmon, je reviens vers vous parce que on est passé donc de ce soir, ça aurait dû être ce soir, l'allocution du président, la troisième dans ce confinement, j'espère que vous m'entendez.
Très bien.
Lundi, donc voilà, vous nous l'avez confirmé d'ailleurs, c'est lundi, pour pouvoir faire le tour des possibilités en fait, hein, d'ici lundi, le tour des possibilités médicales en tout cas, des essais actuels, des propositions, des solutions qui sont aujourd'hui proposées dans les différents établissements hospitaliers et par les différents chercheurs. Bien sûr, on retient cette image avec Didier Raoult aujourd'hui et on retient aussi peut-être les conséquences politiques que cela peut avoir. Elle le disait, Ève Roger, jusqu'à ce que ça coupe ma ligne. Évidemment, ce personnage est très critiqué. Il ne fait pas l'unanimité.
Oui, mais cette fois-ci, pour aller sur l'autre champ politique, du côté de l'opinion, il fait l'unanimité. Et c'est la raison pour laquelle, parce que Eve a eu raison de soulever les contradictions liées sur le plan médical, au déplacement et scientifique, au déplacement donc du président de la République, mais sur le plan politique, il était quasiment obligatoire ce déplacement, parce que le sentiment dans l'opinion est installé sur deux sujets. Un, le gouvernement a menti aux Français pour les masques. Deux, il est en train d'étouffer un espoir qui est celui soulevé par le professeur Raoult. Et ça, sur le plan politique, c'est dévastateur parce que c'est exactement la matrice de la colère des Gilets jaunes qui est en train de se reporter sur ce professeur avec en plus, bien entendu, la geste nationale, on avait déjà évoqué, de Paris contre Marseille. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que dans la préparation de l'allocution et, de lundi et dans le besoin qu'il a de sans arrêt renouveler assurer ou tenter de maintenir une forme de confiance auprès des Français, ce qui est très difficile, eh bien, il fallait commencer à régler la polémique, Raoult, sur le plan politique. On voit bien qu'il y a toute une série d'images qui sont nettoyées. Les images qui sont en train de circuler aujourd'hui, diffusées à l'instant même par l'Élysée, nettoient les mauvaises images de Pantin, où on a vu que le président de la République a fait un déplacement totalement anti-geste barrière. De ce point de vue-là, avec l'attroupement involontaire, mais l'attroupement qui s'est organisé autour de sa présence. Donc, il y avait une nécessité politique parce que, sur le plan politique, eh bien, il est soutenu. Et on voit bien d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est pas évidemment un hasard, dès que Macron est arrivé à Marseille, tous les leaders de la région et en particulier de tous ceux qui sont à droite en plus, hein, c'est évidemment lié, eh bien prennent la parole pour dire enfin, il reconnaît, il est lucide, évidemment ils mettent la charrue avant les bœufs, mais ils ont bien compris que la démarche de Macron est politique et qu'il doit absolument tenter de clore cette polémique qui existe entre, effectivement, le président Macron et le professeur Druide Raoult.
Oui, effectivement. Alors, je vais revenir. J'espère que vous m'entendez toujours, les amis.
Très bien.
Petite gestion, là, aujourd'hui, du direct à distance qui nous fait quelques frayeurs. Emmanuel Dutheil. On va se retrouver dans un petit instant, mais on a aussi, à cause du coronavirus, on va revoir, en tout cas à la hausse, le plafond pour le paiement sans contact. On a commencé, nous, à l'amorcer hier soir sur Europe 1 et ça devrait se faire même très vite.
Oui, ça devrait se faire. Alors, mais c'est quand même très, très, très important de garder le conditionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté politique de Bercy d'imposer aux banques de relever le plafond de 30 à 50 euros. Mais les banques disent, pourquoi pas ? Mais il faut que nous y arrivions d'un point de vue technique. Ça veut dire quoi d'un point de vue technique? C'est-à-dire qu'il faut adapter tous les terminaux dans les commerces qui sont encore ouverts et surtout, il faut adapter votre, matre et nos cartes bancaires à distance. La dernière fois où le plafond a été relevé, quand il était passé de 20 à 30 euros, on avait changé les cartes bancaires. Ça avait pris 3 ans. Là, bien évidemment, on n'a pas le temps de faire ça. Donc l'idée, il y a un test, là, qui est mené dans la quasi-totalité des grandes banques pour voir si elles sont capables de le faire. L'un des plus grands réseaux de France va le faire demain, son test. Et ça va être décisif pour voir si, techniquement parlant, ça tient. Et si ça tient, oui, le plafond sera relevé. Et pourquoi on le décide maintenant à l'aune du coronavirus? Parce que, tout ce qu'on en est, on fait moins souvent nos courses, mais on fait plus de grosses courses. Donc, on est largement au-dessus des 30 euros, donc il y a un vrai problème de plafond, et il y a d'autant plus un problème de plafond que de nombreux commerçants, même si je le rappelle, c'est totalement illégal, mais de nombreux commerçants, pour des raisons de sécurité sanitaire, refusent le paiement aujourd'hui en espèces, ou en tout cas, incitent fortement les gens à passer plutôt à la carte bancaire ou à un autre moyen de paiement. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une pression extrêmement forte et que les banques, je peux vous dire, sont plus que jamais invités à le décider. Alors, quand est-ce que ça va se décider? Il y a une visioconférence des 6 principales banques en tout début de semaine, lundi ou mardi, pour faire le point sur les tests. Et si ça marche, eh ben, ça devrait être annoncé derrière. Il faudrait environ un mois pour déployer tout ça.
Ah, un mois quand même, hein. Un mois de délai.
Bon, on attendez, c'est quand même pas une mince affaire, hein.
Ah, bah, écoutez, hein. Bon, quand il y a urgence. Merci, Emmanuel Dutheil. Merci. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 19h sur Europe 1 avec le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy, vous êtes de retour et ça fait du bien. Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Emmanuel Dutheil, chef du service économie. Et Mickaël Darmon, éditorialiste politique. Et notre correspondant en Espagne, Henri de la Guéry, avec nous depuis Bruxelles. Depuis oui. Barcelone.
Oui, non, Barcelone. Si vous mettez Bruxelles en Espagne.
Aïe, 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 il est dur ce confinement.
Aïe, aïe, aïe.
Pardon.
Voilà. Bah, c'est très bien aussi Bruxelles. Hein. C'est un peu moins. C'est un, parfois voilà. Un peu moins. Alors,
évidemment,
ciel, mais...
c'est toujours moins évident le fou rire en radio parce qu'il n'y a pas l'image et que ça dure plus longtemps. Pour les auditeurs, c'est donc moins rigolo. Je suis de retour, effectivement. Pardonnez-moi pour ces grandes voix quelque peu agitées. Vous l'aurez tous compris, des petits problèmes parfois techniques. Mais on est là, au rendez-vous. Et merci de votre compréhension.
Ève Roger, on vous laisse redire un mot ce soir de dire à Oud. Pardon, j'entends pas toujours ce que vous me dites, donc comme j'étais un petit peu éloignée, je vous laisse reprendre la main. Voilà.
Non, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est désolant dans cette affaire, je trouve, c'est qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Parce que les tests qui sont aujourd'hui, les tests dits officiels, hein, Discovery, en fait, ils ne testent que l'hydroxychloroquine et encore pour les patients hospitalisés. Alors que Didier Raoult, on sait qu'il rajoute un petit antibiotique, enfin, je sais pas s'il est petit, qui s'appelle l'azithromycine, ouais. Et c'est plutôt sur des patients en début de maladie. Donc en réalité, on va comparer des carottes et des choux-fleurs, donc on saura jamais vraiment si Didier Raoult il avait vraiment raison ou pas. Et ça, vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je vois bien que Emmanuel Macron veut pas insulter l'avenir, on sait jamais, mais j'ai peur que ça soit comme souvent dans la vraie vie, un peu à mi-parcours, quoi, que ça soit un peu une zone grise et pas forcément ni tout blanc ni tout noir. C'est ça que je voulais dire.
Ouais. Juste Henri de Laguérie, pardon, je veux pas vous piéger, mais est-ce que pour le coup, l'Espagne, c'est pas si loin de la France. Est-ce qu'on parle de chloroquine chez vous ? Est-ce que c'est
non,
une méthode
non, justement,
qui...
non, c'est très étonnant. Ça ne fait strictement aucun débat. J'ai vu passer quelques articles, mais il y a beaucoup de polémiques ici, mais il n'y a pas de débat autour de la chloroquine.
D'accord, donc c'est pas utilisé a priori, en tout cas dans les établissements hospitaliers, on n'a pas eu recours à la méthode Didier Raoult.
Non, a priori non.
A priori non. On était avec Emmanuel Dutheil aussi et avec Michaël Darmon, bien sûr, sur le chiffre de 100 milliards pour soutenir les entreprises, qui sera éclairci et détaillé par Bruno Le Maire demain. Emmanuel Dutheil, on voit bien qu'il y a de l'eau dans le gaz du côté de l'Eurogroupe. Hein. On le voit bien, on l'a vu hier, peut-être une avancée aujourd'hui, mais on a vraiment du mal à s'entendre.
C'est clair, mais il faut absolument y arriver. Ce serait cataclysmique pour l'image de l'Europe si jamais ils devaient ne pas réussir à se remettre d'accord. Ils ont repris, il y a maintenant quelques minutes, en tout cas même une petite heure, les discussions pour essayer de trouver un accord, raison pour laquelle il faut peut-être encore moins rater l'interview de Bruno Le Maire demain, puisque en direct, on découvrira demain matin les résultats de cet Eurogroupe. Je vous rappelle, le but, c'est de trouver une solution commune pour répondre à cette crise majeure. On parlait des chiffres en France, mais tout à l'heure, Henri nous parlait également du cataclysme sur l'économie espagnole. On voit bien que tous les pays, et il n'y en a quasiment pas un qui est épargné, on fait toujours la séparation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Bien sûr qu'elle existe, bien sûr, une fois de plus, qu'il y en a qui sont plus riches que les autres. Mais là, on est sur quelque chose d'historique quand on voit que le PIB allemand devrait baisser de 10% sur le deuxième trimestre. Vous avez beau être la première économie d'Europe, quand vous vivez une telle difficulté, vous avez besoin d'être en commun avec les autres. Donc là, c'est ce qu'on attend, une réponse commune, ferme, et il faut arrêter les atermoiements.
Eh oui. Et Michaël Darmon, je vais vous donner la parole là pour conclure en quelques secondes, promettez-le-moi, au sujet de lundi, évidemment, et d'Emmanuel Macron. On ne va pas vous demander de prédire l'avenir, mais comme vous êtes informé, est-ce qu'on a une idée de ce qu'il peut annoncer ? On voit bien aussi qu'il y a des atermoiements sur le port du masque. Christophe Castaner, encore tout à l'heure, qui dit non, les villes où on ordonne le port du masque, eh ben non. Il fait un rétropédalage là-dessus. Est-ce qu'on a une idée date du déconfinement, je vais y arriver. Est-ce qu'on sait en quelques mots ?
Eh bien, l'attente en quelques mots. Il y a une très forte attente pour que le président de la République propose et expose un modèle de sortie de crise aux Français et vers quoi ils peuvent se projeter. Puisqu'il a été dit, bien entendu, confirmé que le confinement irait au-delà du 15 avril, la question c'est jusqu'à quand ? Et vraisemblablement, c'est peut-être la réponse la plus délicate pour le gouvernement à procurer aux Français, parce que en réalité tous les scénarios vont dans différentes directions et il va falloir prendre un arbitrage délicat avant lundi soir, parce que les Français attendront une parole organisée et claire.
Oui, c'est-à-dire pas de lyrisme cette fois, pas de la faute du fractionnement.
Il va devoir beaucoup travailler sur lui-même, oui. Ah, ouais. Oui.
Merci beaucoup Michaël Darmon, on en parlera évidemment lundi avec vous. Merci les grandes voix, merci beaucoup Henri de Laguérie d'avoir été avec nous ce soir depuis Bruxelles en Espagne. Ça reste depuis Barcelone, bien sûr, on vous salue, à très vite. Merci beaucoup les grandes voix et pardonnez-moi pour ces aléas techniques.